L'État poursuit son soutien financier à la Calédonie. Le prêt AFD garanti par l'État devrait passer de 60 à 92 milliards de francs, annonce le ministre des Outre-mer. Une aide accrue alors que les collectivités sont en grande difficulté. Les élus du conseil municipal de Nouméa ont validé hier une coupe de 3,8 milliards de francs dans le budget de la commune. Élection à la Chambre des métiers et de l'artisanat. La liste de la présidente sortante obtient 18 sièges sur 25. Elisabeth Rivière s'apprête donc à faire un mandat de 5 ans. À la CCI, les élections ont lieu dans un mois. Une deuxième liste s'est présentée ce matin. Elle regroupe 33 chefs d'entreprise qui veulent notamment instaurer une présidence tournante. Jour de vote aux États-Unis, pas de résultats significatifs et fiables avant ce soir pour nous. Ce sont une fois de plus les États-clés qui seront les arbitres du scrutin. En métropole, plan social chez Michelin et Auchan, le Premier ministre s'interroge sur l'utilisation de l'argent public par ces groupes. Et puis football, la Ligue des champions sourit à Monaco qui s'impose une nouvelle fois lors de la quatrième journée. Lille, de son côté, fait un très bon match nul. Le point complet à la fin de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans Info Mag. L'État confirme donc son aide à la Nouvelle-Calédonie. À l'occasion des questions d'actualité, le ministre chargé des Outre-mer a annoncé le dépôt de 3 amendements au projet de loi de finances 2025 pour financer la reconstruction des bâtiments publics, pour rehausser la garantie de l'État et pour reporter le recensement prévu en 2024, Elisabeth Noir.
François Nalbuffet s'est exprimé en réponse à une question du député Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription. En effet, interpellé le ministre des Outre-mer sur le fait que le projet de loi de finances ne comprenait pas des mesures suffisantes pour la Nouvelle-Calédonie.
Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, vous êtes venu en Nouvelle-Calédonie et vous avez constaté l'ampleur du désastre économique, social, humanitaire que traverse la Nouvelle-Calédonie. Vous vous êtes engagé à modifier, lors du débat parlementaire, le projet de loi finances initial qui ne répond pas aux besoins financiers de la Nouvelle-Calédonie. Donc ma question est simple, monsieur le ministre des Outre-mer, puisque nous n'avons pas pu examiner les amendements concernant la Nouvelle-Calédonie hier en commission des finances, qu'avez-vous prévu dans ce projet de loi de finances pour les Calédoniens ?
Dans sa réponse, François-Noël Buffet a confirmé l'engagement plein et entier de l'État aux côtés de l'ensemble des Calédoniens et de la Nouvelle-Calédonie, et il a annoncé le dépôt de 3 amendements au projet de loi de finances.
3 amendements vont être déposés dans le cadre du projet de loi de finances actuellement en discussion. Tout d'abord, la création d'une enveloppe de 80 millions d'euros pour financer effectivement la reconstruction des bâtiments publics dans le cadre de la circulaire dite reconstruction, d'ailleurs que j'ai signée à Nouméa lorsque j'y étais. Le rehaussement de plus de 50% du montant de la garantie de l'État aux prêts susceptibles d'être consentis par l'AFD, passant de 500 millions d'euros déjà promis à 770 millions d'euros, qui permettra de financer le RUAM, Enercal, les dispositifs de logement social, un éventuel filet social et de couvrir une partie des pertes des recettes fiscales des collectivités calédoniennes. Enfin, le troisième point qui nous paraît important, c'est le report du recensement qui était prévu en 2024 à la fin de l'année 2025. Impossible à réaliser évidemment dans les conditions actuelles et qui permettra de stabiliser aussi pour l'année à venir les dotations des communes. Ce qui fait qu'au total, finalement, entre 2024 et 2025, c'est plus 1,5 milliard d'euros ou à peu près 1,5 milliard d'euros qui sera apporté à la Nouvelle-Calédonie pour aider l'ensemble de nos concitoyens.
François-Noël Buffet qui rappelle au passage que dès 2024, l'État a mobilisé un soutien financier exceptionnel de plus de 400 millions d'euros à la Nouvelle-Calédonie. Dans sa réponse, le ministre des Outre-mer annonce donc de nouvelles mesures de soutien. Il confirme la création d'une enveloppe de 80 millions d'euros pour financer effectivement la reconstruction des bâtiments publics. Il annonce que l'État fait passer sa garantie de 60 à 92 milliards de francs dans le projet de loi de finances. Et il annonce le report du recensement à la fin de l'année 2025, ce qui permettra de stabiliser pour l'année à venir les dotations des communes. Après la réponse du ministre, Nicolas Metzdorf avait un droit de suite et il l'a utilisé pour annoncer qu'il allait travailler à transformer le prêt garanti par l'État en subvention.
Simplement remercier le ministre des Outre-mer, remercier le gouvernement dans son ensemble. Un mot particulier pour messieurs Saint-Martin et Armand qui font des efforts sensibles. Vous remercier, chers collègues, parce que je sais que le budget de l'État est difficile aujourd'hui, mais la Nouvelle-Calédonie en a énormément besoin. Merci pour cette solidarité nationale. Je voudrais juste apporter, si vous me le permettez, un petit bémol, monsieur le ministre des Outre-mer, c'est que jusqu'ici, la solidarité nationale s'est beaucoup exprimée à travers des prêts à la Nouvelle-Calédonie. Depuis le Covid, on est passé d'un taux d'endettement de 90% à plus de 400%. Il va falloir à un moment donné, quand on discute de ce sujet-là, je sais que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, se rend dans les prochaines semaines à Paris. On pourra continuer à en discuter.
Et dans un communiqué, le député de la première circonscription indique que ces premières annonces du ministre des Outre-mer sont à saluer. Le gouvernement, écrit-il, commence à prendre des mesures à la hauteur de l'urgence de la situation. Nicolas Metzdorf salue l'investissement des ministères concernés et il déclare que si cette première tranche d'aide est à saluer, le chemin demeure encore long pour reconstruire la Nouvelle-Calédonie.
Le conseil municipal de Nouméa effectue des coupes sombres dans son budget 2024. C'était l'ordre du jour du conseil qui a adopté hier soir une décision modificative numéro 2 pour supprimer 3,8 milliards dans le budget de la commune. Le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, est venue nous en parler. Elle était en effet notre invitée ce matin à 7h30.
C'est massacre à la tronçonneuse, déclare Sonia Lagarde, qui utilise volontairement un langage imagé pour expliquer pourquoi il a fallu sabrer dans le budget 2024 de la ville de Nouméa. Il était à l'origine de 27,5 milliards et 3,8 milliards en ont été retirés pour prendre en compte la baisse drastique des recettes. Concrètement, cela signifie notamment une quasi-suppression des investissements, explique Sonia Lagarde.
Quand vous élaborez un budget pour une année, en début d'année 2024, vous avez à l'intérieur de ce budget une section fonctionnement et une section investissement. Et dans cette section investissement, il y a bien sûr tout un tas de travaux qu'on devait faire. Alors il y a des coûts qui sont partis depuis le début de l'année 2024. Donc cela, on a essayé de les maintenir. Et puis, tout ce qu'on avait prévu, ben, on ne fait pas. Et donc quand on ne fait pas, ben, on ne donne pas de boulot aux entreprises calédoniennes. Et donc tout s'enchaîne. Et c'est ce qu'on a fait dans cette DM2, mais dans la DM1 aussi. C'est-à-dire qu'on a enlevé les investissements qui étaient prévus. Alors, les investissements, c'est quoi? C'est resurfacer les routes, c'est faire de l'assainissement, c'est construire la maison de la jeunesse. Autant de projets que nous avons dû reporter.
Pour l'instant, la mairie peut payer ses 1600 agents jusqu'à la fin de l'année, mais elle ne sait pas encore quelle sera la suite. Dans ce contexte, nous avons demandé à Sonia Lagarde si l'aide de l'État à la Nouvelle-Calédonie lui semblait suffisante.
Alors, ne comptez pas sur moi pour taper sur l'État. Je laisse ça à d'autres. Parce que si l'État n'avait pas été là, alors on peut toujours dire que c'est pas assez. Mais vous comprenez qu'on peut pas dire vouloir être français et puis taper en permanence sur l'État. Je crois que les discussions, elles ont lieu depuis le début. L'État nous a aidés, en particulier les communes, même si la situation financière pour l'ensemble d'entre elles reste très compliquée. En tout cas, l'État a fait de gros efforts concernant les contrats. Les taux auxquels on avait droit ont considérablement augmenté. Donc, sur les écoles, c'est 100%. Sur les structures publiques, les bâtiments public. Une fois que l'assureur aura dit moi je vous donne tant sur ce bâtiment qui a brûlé, il en restera une partie et l'État viendra sur cette deuxième partie nous aider à hauteur de 70%. Donc oui, l'État aide. On peut toujours trouver que c'est pas suffisant, mais il faut aussi regarder quel est l'état de la France aujourd'hui et je crois que les efforts ils sont là.
Sonia Lagarde qui précise qu'à Nouméa, 37 bâtiments publics ont été détruits pendant les émeutes et que les dégâts sont estimés à 6 milliards. La situation est tellement préoccupante que le maire de Nouméa envisage de placer la commune sous la tutelle de l'État.
Depuis le début, la France a envoyé de l'argent. Que ce soit sous forme de prêts, sous forme de subventions, là n'est pas la question, c'est que l'État nous a aidés. Alors, à partir du moment où l'État nous aide, elle a envoyé de l'argent à la Nouvelle-Calédonie, elle a envoyé de l'argent pour Enercal, qui est une structure qui était très mal, elle a envoyé de l'argent pour le RUAM, elle a envoyé de l'argent pour la Caisse des retraites, mais les communes, on a été les oubliés de l'histoire. Or là, quand ce sont des dépenses obligatoires de la Nouvelle-Calédonie que nous, on ne perçoit rien, là, moi je commence à dire, au mois de janvier, je ne pourrai plus assumer les salaires de mes 1600 agents. Donc je fais quoi? Vulgairement, je vais rendre les clés du camion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis au commissaire, je vais passer volontairement sous tutelle de l'État. Ça veut dire, je ne peux plus en février voter des budgets puisque je n'ai pas de recettes, donc je ne peux pas mettre des dépenses dans un budget. Donc on fait quoi? Alors, c'est la Chambre territoriale des comptes qui assurera la gestion de la commune.
Sonia Lagarde était à Paris récemment. Elle a rencontré de nombreux responsables et elle a notamment reçu, dit-elle, l'assurance de Bercy que l'État allait accompagner les communes de Nouvelle-Calédonie dans les mois qui viennent pour justement éviter la mise sous tutelle. Une interview du maire de Nouméa à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Et le maire de Nouméa a aussi évoqué la remise hier soir de la médaille de la ville à une famille de Logicop. Pendant les émeutes, la famille Stouff, les parents et leurs deux enfants ont réussi dans des conditions très difficiles, voire risquées, à sauver 800 livres de la médiathèque de Caméré, qui avait été victime d'incendies et de dégradations. Ces livres sont aujourd'hui mis à la disposition des Nouméens à la maison des associations. Un engagement citoyen courageux, récompensé donc par la médaille de la ville et également longuement salué par les applaudissements des élus du conseil municipal.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, près de 6 mois après le déclenchement de la violence insurrectionnelle, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas avoir le sentiment que la situation est sous contrôle. Ils sont 13% à penser à l'inverse que l'on assiste à un retour à la normale. Notre question du jour, la visite du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale peut-elle permettre, selon vous, de rouvrir le dialogue sur l'avenir institutionnel? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. 11h41, une première pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlerons des résultats des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat et de la préparation des élections à la Chambre de commerce et d'industrie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre Auchan Kéféri fête ses 1 an. C'est notre anniversaire, mais c'est vous qu'on gâte. Ce mercredi 6 novembre, on vous offre 10% de remise sur la poissonnerie avec la carte fidélité, des bons d'achat et la possibilité de remporter l'un de nos 2 caddies surprise d'une valeur d'environ 60 000 francs. Rendez-vous en magasin.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
C'était aujourd'hui la proclamation des résultats de l'élection qui a permis de désigner les membres élus à la Chambre des métiers de l'artisanat. La liste de la présidente sortante a obtenu la majorité des suffrages, Michael Juneski.
Oui, la liste Agissons pour un avenir durable de l'artisanat en Nouvelle-Calédonie, conduite par Elisabeth Rivière, est arrivée en tête avec 399 voix contre 329 en faveur de la liste L'artisanat autrement décidons ensemble. Un vote qui se déroulait par voie électronique du 1er au 25 octobre ou par vote physique ce mardi. Une élection qui a connu un faible taux de participation, 7,9% de votants parmi les 11 016 inscrits, ressortissants de la Chambre des métiers de l'artisanat. On compte également 135 bulletins blancs ou nuls. On écoute la présidente sortante, Elisabeth Rivière.
Déjà, un grand merci à l'ensemble des électeurs qui ont porté leur voix sur notre liste. Mais je tiens aussi à rassurer les électeurs qui ont porté leur voix sur l'autre liste. Nous sommes là pour représenter l'ensemble des artisans. Un faible taux de participation, moins important qu'en 2019. En 2019, il y avait aussi 3 listes. Cette année, il n'y en a que 2. C'est aussi important. Plus il y a de listes, plus il y a de gens qui viennent voter. Mais aussi, dans cette période difficile, les artisans, je pense, ont autre chose à penser. Malheureusement, que de venir élire des représentants, les entreprises sont en grande difficulté. Les chefs d'entreprise sont focalisés sur la survie de leur entreprise. Souvent des entreprises familiales, souvent en difficulté. Ils sont là en train d'essayer de se réinventer, en train d'essayer de trouver des solutions. Je peux comprendre qu'ils ont autre chose en tête aujourd'hui que d'élire de leurs représentants. Mais d'autres ont décidé de venir exercer leur droit de vote. Et je crois que c'est très important pour l'ensemble des artisans. Ils auront des représentants et nous saurons faire porter la voix comme nous l'avons fait au cours de ces 2 dernières années, au plus haut niveau, au niveau calédonien, mais aussi au niveau national.
Avec 18 sièges sur 25, Elisabeth Rivière devrait être réélue à la présidence de la Chambre pour un mandat de 5 ans lors d'une assemblée générale qui devrait être organisée d'ici 15 jours. La volonté est d'aller vite dans une période compliquée pour le monde économique. On retrouve Elisabeth Rivière.
Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de regarder à qui sont les responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui, on a un travail à effectuer et ce n'est pas seul qu'on y arrivera. C'est tous ensemble. Alors moi, je pense déjà à mes 2 collègues des 2 chambres consulaires. Nous travaillons vraiment ensemble. C'est vrai qu'on a entendu les élus politiques nous dire qu'il fallait qu'une chambre. On a déjà, nous, effectué beaucoup de travail sur la mutualisation de l'ensemble de nos services. La réduction des dépenses, on sait faire. J'ai entendu beaucoup de critiques pendant cette campagne, beaucoup de discrimination. La Chambre de métiers est très bien gérée. Notre seule difficulté, c'est que nous n'avons pas eu nos financements de la Nouvelle-Calédonie. La Chambre de métiers fonctionne depuis le 1er janvier sur sa trésorerie. Arrivée au bout de 12 mois, je pense qu'il est normal qu'elle puisse être en grande difficulté. Aujourd'hui, c'était la proclamation officielle des résultats. L'autre liste n'a même pas eu la décence d'être présente. C'est un peu triste parce que même si on perd, ils ont des sièges, ils ont toute leur place dans cette Chambre. À eux de décider ce qu'ils voudront faire.
Elisabeth Rivière, présidente sortante de la Chambre des métiers de l'artisanat, sur la nouvelle équipe d'élus qui prendra place lors de l'AG, à organiser dans un délai maximum de 6 semaines. 70% seront des nouveaux élus, parmi lesquels 32% de femmes, alors que les femmes ne comptent que pour 26% dans la totalité des artisans ressortissants à la CMA. La Chambre des métiers et de l'artisanat a déjà travaillé avec la Banque alimentaire pour pouvoir accompagner 76 artisans qui se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté. La Chambre rappelle que les artisans artisans peuvent faire appel à ces services pour être aidés et accompagnés face à la crise.
Et pendant ce temps, les élections se préparent à la Chambre de commerce et d'industrie. Une deuxième liste intitulée « Alliance pour la relance » a été présentée ce matin. Elle regroupe 33 chefs d'entreprise qui veulent agir pour sauver les entreprises, Nicolas Legrand.
Oui, une liste qui se présente comme un collectif de chefs d'entreprise et de représentants de syndicats professionnels. Ils critiquent la gouvernance actuelle et estiment ne pas avoir été suffisamment soutenus par la Chambre consulaire dans la crise que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie. Et c'est donc dans cette philosophie que l'Alliance pour la relance a été créée. Et elle propose même d'instaurer une présidence tournante à la tête de la CCI au cours de la même mandature. Alexandre Rodriguez de VKP IMO.
Nous considérons nombreux de nos secteurs ne se sentent pas écoutés, entendus. Il y a des urgences à traiter. La situation est grave en Nouvelle-Calédonie. Et nous pensons qu'il est notre devoir aujourd'hui de nous investir pour pouvoir porter haut et fort la voix du monde économique. Cette liste, elle est composée de 33 personnes qui sont issues de syndicats professionnels. Nous avons fait la démarche d'aller à la rencontre de l'ensemble des syndicats professionnels les principaux de la place pour qu'ils nous nomment les personnes qu'ils considéraient légitimes pour porter les valeurs de leur secteur. Nous ne sommes pas attachés aux hommes, nous sommes attachés aux idées. Donc il est normal pour nous de considérer que chaque collège puisse donner son avis sur chaque question. Et donc nous avons proposé ce qu'il y a à la fois le collège service, le collège commerce et le collège industrie qui puissent porter la présidence. Donc c'est comme ça qu'on a constitué cette liste et elle est composée de personnes d'expérience qui travaillent leur dossier depuis des années et qui connaissent très bien leur sujet. Et on retrouve au sein de cette liste une diversité qui fait notre richesse et dont on est fier.
Et quelques propositions sont mises sur la table afin d'agir pour la relance. Alors tout n'est pas arrêté, car cette liste estime que la chambre consulaire doit être un lieu de débat. Elle évoque tout de même le soutien financier de l'État qui doit s'inscrire sur le long terme. Elle propose aussi de simplifier les démarches pour les chefs d'entreprise, mais aussi de positionner le tourisme comme moteur de croissance. Et dans une volonté de mutualiser, cette liste propose aussi de fusionner les trois chambres consulaires et de réduire les coûts de fonctionnement des plateformes aéroportuaires gérées par la CCI. On retrouve Alexandre Rodriguez.
On veut appliquer ce qu'on s'applique à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut rationaliser, il faut réduire les coûts, il faut simplifier la vie de l'entrepreneur. On pense notamment à la gestion également de l'aéroport où les vols domestiques de Magenta seraient tournés vers Tantuta. Donc, ce sont autant de mesures qu'on retrouve sur notre profession de foi et sur notre page Facebook. Et nous serons heureux si jamais les ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie nous donnent leur confiance de pouvoir les porter lors de la prochaine mandature.
Et les élections ont déjà débuté pour les 13 000 ressortissants de la CCI depuis lundi. Le vote électronique se déroulera jusqu'au 25 novembre. Le scrutin physique, lui, se tiendra le 5 décembre. L'autre liste, une chambre pour tous, ensemble pour réformer et reconstruire, qui avait été présentée la semaine dernière, est conduite par le président sortant David Guyenne.
À Radio Rythme Bleu, il est 11h48.
Trouver un job d'été dans les services de la mairie de Nouméa, c'est possible grâce à l'opération Job Dating qui est organisée aujourd'hui au sein même de l'hôtel de ville, Léana Colombo.
Et oui, malgré cette période compliquée, la mairie a souhaité maintenir ses jobs d'été pour donner des opportunités aux jeunes. 41 postes sont à pourvoir entre novembre et février pour les 16-26 ans. Les jeunes seront recrutés pour une période de 3 à 4 semaines et tous les domaines sont représentés, l'administration, la technique, l'animation, la culture ou encore le sport. L'occasion de gagner de l'argent en cette période compliquée où le moindre sou compte, mais aussi de découvrir le monde du travail, explique Leroy Chétine, gestionnaire ressources humaines à la DRH de Nouméa.
L'idée du job d'été, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences durant quelques semaines et de pouvoir travailler avec des professionnels. L'idée du job dating, c'est aussi de privilégier le face-à-face avec le service recruteur et de pouvoir exposer ses compétences au service recruteur. Parce que c'est vrai que maintenant, tout se fait en ligne. Donc on reçoit énormément de CV et ceux qui le font en ligne par contre c'est la lettre de motivation, vraiment mettre en avant leurs compétences pour pouvoir attirer l'œil du recruteur. On a énormément de jeunes qui se sont orientés vers l'administratif, mais quand on reçoit les candidatures, il y en a autant pour de l'administratif que pour de l'animation ou pour de la technique.
Les postes sont ouverts sans condition de diplôme et les candidats retenus bénéficieront d'une indemnisation mensuelle égale à 65% du SMG. Habituellement, 300 à 400 CV sont déposés. Cette année, le même quota devrait être atteint. Il fallait d'ailleurs parfois s'armer de patience avant de débuter son entretien avec un recruteur tant la file d'attente était longue. Parmi ces jeunes intéressés, Sheina, 16 ans. Elle s'est présentée ce matin à l'hôtel de ville pour un poste administratif.
Pour mon CV,
je vous en prie.
Merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter en quelques minutes.
Moi, je m'appelle Sheina, je suis au lycée de Saint-Jean-23 Païta. Je suis en formation en accompagnement de la personne et je suis en première.
Si tu devais me donner trois qualités, qu'est-ce que tu me dirais sur toi ?
Sociable, gentille et très souriante.
Parfait. Ben, je t'invite à prendre le numéro de l'offre, aller voir mes collègues en animation et culture, et je te souhaite une bonne continuation et félicitations.
Merci.
Ton CV est très bien.
Alors donc, comment tu t'en es sortie ?
Super bien, j'ai beaucoup aimé, c'était bien. Après, elle m'a mis à l'aise, du coup c'est bon.
Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir un job cet été ?
Pour m'occuper surtout et pour me faire des petites pièces, pour pouvoir payer peut-être ma scolarité ou payer des trucs que j'aurais besoin.
Pour pouvoir prétendre à un job, il faut au préalable s'être inscrit sur la plateforme Job d'été de la province Sud. Les offres sont également consultables sur le site de la mairie de Nouméa. Le job dating se terminera à 15h.
Une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment les élections présidentielles aux USA. Il faudra attendre ce soir pour avoir une première tendance sur les résultats.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La vie est faite d'imprévus, de changements, d'incertitudes.
Bienvenue !
Mais un accompagnement personnalisé offre de nouvelles perspectives. Les défis se transforment en opportunités. Demain se réinvente et vous appartient. Crédit à la consommation, financement professionnel, BCI. Le coup de pouce dont vous avez besoin. Offre commerciale disponible. Parlez-en à votre conseiller BCI.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure, adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Il faudra encore attendre pour connaître les résultats de la présidentielle américaine. Présidentielle à couteau tiré entre la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump. Le résultat dépendra en grande partie du vote dans les États clés, les fameux swing states, qui peuvent basculer dans un camp ou dans un autre. Ils sont au nombre de 7. Parmi eux, la Géorgie, où le vote est toujours en cours. Et signe que le scrutin est important, 4 millions de Géorgiens ont choisi le vote anticipé. Le reportage d'Aviva Fried pour Europe 1.
Et la conséquence de ce taux de participation anticipé record, eh bien c'est que ce matin, il n'y avait pas grand monde devant les bureaux de vote. Celui dans lequel je me suis rendu à Atlanta a accueilli à l'ouverture une vingtaine d'électeurs. L'ambiance était plutôt calme. Et pour s'assurer que tout se déroule en ordre, Sean Harkins, un observateur de l'État de Géorgie, était présent.
Vous devez contrôler les machines à voter, les scanners, pour être sûr que tout marche. C'est comme d'habitude.
À l'extérieur du bureau de vote, l'animateur de radio et célébrité locale DJ Shouty a fait le spectacle. Grosse chaîne autour du cou, lunettes de soleil vert fluo sur le nez, il s'est adressé en direct aux électeurs sur les réseaux sociaux.
Les gars, si vous n'avez pas voté, sortez de votre lit maintenant.
Mais malgré tout, la peur de revivre le cauchemar de 2020 était dans toutes les têtes, ce que m'expliquait une électrice.
Je suis légèrement terrifiée, oui, mais je dois faire confiance au système.
Les premiers résultats sont attendus ici à 2h du matin, heure de Paris, ce qui pourrait permettre d'apaiser les esprits.
Pas encore donc de tendance pour cette élection, sachant que les bureaux de vote ferment ce soir pour nous. Donald Trump a voté en Floride, dans son fief de Palm Beach. Il s'est dit confiant dans la victoire et il a promis de reconnaître sa défaite. Si, a-t-il ajouté, l'élection est juste. Kamala Harris organise, elle, sa soirée électorale dans son ancienne université de Washington. Toujours à l'étranger, le gouvernement espagnol annonce une aide de plus de 10 milliards d'euros pour les sinistrés du sud-est du pays. Le bilan des inondations causées par les très fortes précipitations la semaine dernière fait toujours état de 217 morts, mais plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. En métropole, les députés français ont observé une minute de silence à la mémoire des victimes. Quelques minutes après cet hommage rendu par l'Assemblée nationale, le Premier ministre est intervenu à la tribune. Je veux savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Ces groupes, ce sont Michelin et Auchan qui viennent d'annoncer chacun un vaste plan social. Face à la concurrence étrangère, le fabricant de pneus a annoncé la fermeture de 2 usines à Vannes et à Cholet. 1200 salariés sont touchés. Quant au groupe Auchan, ce sont 2400 salariés qui font les frais du plan social qui prévoit aussi la fermeture d'une dizaine de magasins. Plan social annoncé au siège du groupe à Lille. Le reportage de Lionel Gougelot.
Quelques minutes après les annonces de la direction, les représentants syndicaux s'extraient de la réunion, le visage grave et encore sonné par la brutalité du plan.
C'est au-delà de nos craintes, c'est catastrophique. Ça va laisser beaucoup, beaucoup de salariés dans la difficulté, de familles. scandaleux.
Trois hypermarchés, un supermarché fermé, des coupes drastiques dans les effectifs de la centrale d'achat, 700 postes de vendeurs équipements électroménagers supprimés, conséquence d'erreurs stratégiques des directions successives, selon Gérald Villeroy, délégué CGT.
Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas un placement prix qui permette à la ménagère de se retrouver dans l'enseigne Auchan avec un service de qualité et des prix au plus près de la réalité, on ne pourra pas faire la différence par rapport à nos concurrents.
Mais plus généralement, c'est tout le modèle Auchan qui est remis en cause, constate Nadia Lambda, hôtesse de caisse dans la région de Dunkerque.
Mais forcément, il y a une baisse de fréquentation. Forcément, on le voit. Les gens ne veulent plus, enfin, les clients ne veulent plus un parcours d'achat aussi grand. Ça fait des années qu'on leur dit attention, attention, il y a quand même des choix stratégiques qui sont faits, qui sont difficiles. Nous, on est en magasin, on le voit. On ne nous a jamais écoutés. Mais là, vraiment, c'est un coup de massue. Sincèrement, c'est un coup de massue.
Et dans ce qu'elle appelle son plan de reconquête, la direction promet un maximum de reclassement et d'accompagnement des salariés, mais cela ne devrait pas empêcher les actions et les débrayages dans les magasins dans les prochains jours.
À l'actualité en métropole, c'est aussi la sortie du premier livre de Jordan Bardella. « Ce que je cherche », c'est son titre, sera dans les librairies le 9 novembre. Mais le Figaro littéraire publie les bonnes pages de ce livre dans lequel Jordan Bardella raconte son parcours, mais aussi fait quelques confidences plus personnelles. Par exemple, en racontant les moqueries qu'il a subies sur son prénom, Alexandre Chauveau pour Europe 1.
C'est ce qu'il raconte lors de ses premières soirées militantes. Je comprendrai plus tard que mon prénom est un marqueur au fer rouge, la carte d'identité de ma classe sociale, écrit Jordan Bardella, qui dévoile ses origines familiales, grands-parents italiens, immigrés en France. Il raconte notamment ses premières parties de pêche avec son grand-père paternel, ouvrier sur le chantier de la mosquée Hassan II de Casablanca, retraité au Maroc et nostalgique d'une France qu'il juge déjà à l'époque en désordre. Sa jeunesse à Saint-Denis est marquée, dit-il, par l'insécurité, au point que sa mère compare la cité Gabriel Péri, où il grandit au Bronx. Et puis, il y a évidemment des passages plus politiques, sur les rencontres de Saint-Denis notamment, dont il ressort avec beaucoup de certitude. « J'ai quitté mes adversaires sans aucun complexe », se félicite-t-il, tout en décrivant des chefs de parti amorphes et spectateurs de son échange avec le président. « Il y a Macron et il y a nous. Le reste, c'est très faiblard », écrit-il à Marine Le Pen ce soir-là, sans épargner pour autant le chef de l'État. « Il m'aura donné l'image d'une France telle un avion de ligne en plein ciel, sans pilote », tacle notamment le président du Rassemblement National.
Alexandre Chauveau pour Europe 1. Il est 11h57. La dernière page de ce journal, ce sera évidemment l'actualité sportive et nous verrons que les clubs français en football continuent de briller en Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Hey! En ce moment, dans nos hypermarchés géants, c'est les méga maxi promos. C'est la folie des produits en promo.
Oui! Il y a des produits gratuits si on en achète un ou deux ou quatre. Des 50% gratuits, des produits Cagnotte Mon Club. En plus, jusqu'au 17 novembre, il y a deux voyages de rêve à gagner tous les jours. C'est pas dingue, ça? Aujourd'hui, direction Hawaï et l'île aux maîtres.
Viens vite, on y va.
Jusqu'au 17 novembre, les méga maxi promos, c'est dans nos hypermarchés géants préférés.
Géant Nouvelle-Calédonie, le moins cher. Venez comparer.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et on va retrouver Jean-François Baudin après avoir salué notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le football, pour commencer avec la Ligue des Champions. Et les clubs français, je vous le disais, continuent de briller sur la scène européenne, Léo Fichou.
Et oui, 9 rencontres de la 4e journée de Ligue des Champions se jouaient ce matin. Monaco et Lille affrontaient 2 clubs italiens et ont enchaîné les bonnes performances. Monaco d'abord reste invaincu après sa victoire 1-0 sur la pelouse de Bologne. Victoire grâce à un but en fin de match à la 86e minute. On écoute le monégasque Magnès Akliouche après la rencontre.
On savait qu'à l'extérieur, ça allait pas être un match facile contre cette belle équipe de Bologne. Donc on avait à cœur de rien lâcher jusqu'au bout. Et voilà, ce but récompense un peu tous nos efforts pendant ce match. On a fait aussi une bonne première période, la deuxième un peu plus compliquée, mais on est content de mettre ce but parce qu'on n'a rien lâché. La saison est très longue, c'est bien de bien démarrer, il va falloir être constant sur toute la saison. Mais bien sûr, on est heureux de ce départ dans cette compétition.
Et le LOSC, de son côté, après avoir battu le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid, a tenu tête à la Juventus de Turin ce matin. Match nul, un but partout. Au classement provisoire, Monaco est 3e, Lille 12e. Demain matin, à 7h, place au PSG et à Brest. Les Brestois, qui restent sur un nul et deux victoires en Ligue des Champions, se déplaceront en République tchèque sur la pelouse du Sparta Prague. Le Paris Saint-Germain, qui est à la peine sur la scène européenne, recevra l'Atlético de Madrid.
Et puis on va parler course à pied. Le marathon de Sydney a en effet intégré cette semaine le prestigieux circuit du World Marathon Majors.
Créé au début des années 2000 et passant d'ailleurs de 1200 finishers à plus de 25 000 participants cette année, le marathon de Sydney effectivement rejoint ceux de Londres, New York, Boston, Chicago, Tokyo et Berlin dans le cercle des marathons les plus renommés au monde. C'est l'aboutissement d'un programme de 3 ans visant à développer l'événement. Une promotion du marathon de Sydney, c'est aussi une très bonne nouvelle pour la région Pacifique et pour les coureurs calédoniens. On écoute Bruno Dumais, président du Marathon International de Nouvelle-Calédonie.
C'est une bonne nouvelle pour le Pacifique Sud. Je pense que Sydney correspond tout à fait aux besoins de la chose. Et puis, ils ont l'avantage par rapport à nous, c'est qu'ils ont tout. Ils ont et le terrain propice, les transports et les hôtels. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour ce genre de choses. Bah, ma foi, heureux pour eux. J'espère que les Calédoniens profiteront de ça pour se mesurer à la concurrence. Maintenant, actuellement, en Nouvelle-Calédonie, tout est un peu en vrac. On n'a pas eu de marathon cette année. Et les coureurs de marathon calédoniens sont de plus en plus rares. Donc, j'espère que tout repartira dans quelques temps.
On prend donc déjà rendez-vous pour le prochain marathon de Sydney qui aura lieu le dimanche 31 août 2025.